Mali, toutes les voix du Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
Vendredi 25 novembre à la une de cette édition, arrestation ce jeudi à Gao du numéro 2 du groupe djihadiste en Sardine, mis en cause dans l'embuscade meurtrière contre l'armée le 20 novembre. Cette information a été confirmée par des sources militaires et des sécurités. Pour certains analystes, cette arrestation n'aura pas une grande influence sur l'arrêt des hostilités et des violences commises par le groupe terroriste. Procès du général Sanogo à seulement quelques jours du début de son procès. Ses avocats estiment que le délai de citation de leur client n'a pas été respecté. Ils ont saisi le procureur général de la cour d'appel de Bamako. 3000 Maliens fuyant le regain de violence dans le nord du pays sont arrivés depuis septembre en Mauritanie, augmentant le nombre des réfugiés du camp de Mbeira. L'insécurité dans la région de Tombouctou explique le déplacement de ces populations. À cette quinte à la présentation de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue. Le numéro 2 du groupe djihadiste en Sardine, mis en cause dans l'embuscade meurtrière contre l'armée le 20 novembre, a été arrêté ce jeudi à Gao. Cette information a été confirmée par des sources militaires et de sécurité. L'arrestation de ce chef djihadiste est intervenue au lendemain des funérailles des 5 militaires tués dimanche dernier. Des explications avec Idrissa Sako.
L'homme arrêté a été identifié comme Atayer Ag Ihadou. Il serait le responsable adjoint de la faction d'Anne Sardine ayant mené l'attaque du convoi de l'armée transportant des urnes après le vote pour les élections municipales dans une localité proche de Tombouctou. Au cours de cette attaque, 5 militaires et un civil ont été tués. Selon les autorités militaires, Atayer Ag Ihadou était activement recherché. Cette arrestation a été qualifiée de grosse prise. L'individu a été transféré à Mopti, puis conduit par hélicoptère à Bamako. Selon des sources militaires, il était l'homme le plus recherché dans le gourmand après son chef, identifié comme Al-Mansour Ag Al-Kassim. Leur groupe est considéré comme la franchise du groupe Ansardine dans le sud de Gao. Cette faction est fortement soupçonnée d'avoir mené notamment l'assaut le 6 novembre contre un convoi de la mission de l'ONU au Mali près de Douanza. Un casque bleu togolais et deux civils avaient été tués dans cette attaque et sept casques bleus togolais blessés.
Pour certains analystes, l'arrestation d'Atayer Ag Ihadou n'aura pas une grande influence sur l'arrêt des hostilités et des violences commises par les groupes terroristes. Suleiman Drabou, éditorialiste au quotidien national Essor, est joint au téléphone par Idrissa Sako.
Pour moi, je ne pense pas que l'arrestation d'un adjoint, d'un chef adjoint de Katiba dans une région du Mali ait une incidence énorme sur le processus de paix. Et surtout sur la fin des violences.
Mais c'est quand même une grosse prise pour l'armée malienne.
Ah oui, oui, assurément, parce que l'insécurité est telle dans ce triangle que vous savez que la MINUSMA a même décidé de changer les routes d'approvisionnement, de passer désormais par Lomé, Niamey, et de Niamey directement à Gao. Donc Gao deviendra le hub de la MINUSMA plutôt que Bamako. Et une des raisons de ce changement de logistique, c'est l'insécurité qu'il y a sur la route entre Douanza, Gao, Douanza, Tombouctou, et dans tout ce secteur-là.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations en consultant la page Facebook et le compte Twitter de Studio Tamani. Kaï en état d'alerte. La ville serait sous menace terroriste depuis quelque temps. Une menace prise au sérieux par les autorités locales. Toutes les activités culturelles sont suspendues jusqu'à nouvel ordre et les attroupements sont interdits. L'organisation de Miss ORTM Kaï prévue ce soir a été reportée et s'est dit en moins d'un mois. Deux présumés djihadistes armés ont été arrêtés dans la localité. Sur un autre sujet, le chef de file de l'opposition conteste toujours les élections municipales dans le district de Bamako. Selon lui, après le décompte des bulletins, des irrégularités ont été constatées dans les résultats provisoires des communes 1 et 2. Soumaïla Sissé est joint au téléphone par Omar Ouégalo.
Non, nous n'avons pas reconnu les résultats dans le district de Bamako, contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit sur les différentes radios. Nous avons reconnu qu'il y a eu beaucoup de fraudes dans le district de Bamako pour lui apporter des éléments de preuve, des spécimens qui ont changé avant le vote, des bulletins prévotés dans beaucoup d'endroits dans le district de Bamako. Maintenant, nous avons eu les résultats affichés par le gouverneur du district de Bamako. En commune 1, nous sommes à égalité avec le RTM, 13 conseillers partout, et nous avons demandé à la CENI de recompter les et j'attends le rapport qui va sortir de cette confrontation. Dans la commune 2, il y a des problèmes, parce que le score du RPM est un score surfait. Nous avons donc demandé de recompter les bulletins à ce niveau. Pour vous donner les chiffres, le RPM a eu 9127 voix par la délibération du gouverneur du district. Le décompte à la SONI a donné 7845 voix. Ça veut dire qu'il y a 1282 voix frauduleuses obtenues par le RPM.
À quelques jours du début de son procès, les avocats du général Amadou Aya Sanogo estiment que le délai de citation de leur client n'a pas été respecté. Ils ont saisi le procureur général de la cour d'appel de Bamako, Maître Tchessolo Konare, avocat de l'ex-putschiste, au micro de Ousmane Diko.
L'article 256 a obligation de citer un prévenu dans un délai de 15 jours quand il se trouve au siège de la juridiction, un mois dans le report de la juridiction. Donc s'il s'agit d'un accusé, il doit être cité avant l'audience 15 jours quand il se trouve au siège de la juridiction, un mois quand il est en dehors du siège, donc dans le ressort. Et si ce n'est pas dans le ressort, dans un délai de 2 mois. Donc si c'est le ressort, le délai prévu par la loi, c'est un mois. Donc ces dispositions n'ont pas été respectées et nous avons porté nos griefs devant le procureur général de la cour d'appel de Bamako. Ce qui est constaté, c'est que les lois de procédure sont d'ordre bien impératif, c'est-à-dire quand la loi dit on fait ça, obligatoirement on doit faire ça. Donc si ce n'est pas fait, on assiste à une violation. Dans le cas de l'espèce, si l'accusé comparé à la barre, s'il demande le renvoi, en principe la cour ne peut pas refuser. Nous sommes poursuivis pour des faits gravissimes et on a étalé même des charniers à la télé et aussi de tout le monde. Pourquoi nous délocaliser un procès de ce genre à Sigas? Tout ça, c'est pour violer aussi les droits de la défense. Nous portons contre ces violations des droits de la défense.
Je vous l'annonçais dans le titre, 3000 Maliens fuyant le regain de violence dans le nord du pays sont arrivés depuis septembre en Mauritanie, augmentant les rangs du camp de Mbeira. L'insécurité de la région de Tombouctou explique le déplacement de ces populations qui viennent grossir le nombre des réfugiés déjà en situation de très grande précarité. Arkia Touré.
L'un des représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés indique que ces 3000 Maliens sont encore en phase de recensement et de traitement pour leur prise en charge. D'après les chiffres du HCR, ce camp accueillerait avant leur arrivée près de 43 000 réfugiés maliens. Selon le HCR, les nouveaux venus ont fui l'instabilité et l'insécurité dans les régions limitrophes du Mali avec la Mauritanie, notamment la zone de Léré dans la région de Tombouctou. Pour le responsable du programme alimentaire en Mauritanie, ce nouvel afflux complique la situation dans le camp où la ration alimentaire a été diminuée en raison du manque de financement. Selon lui, les besoins du camp sont estimés à 17 millions de dollars pour assurer la prise en charge des réfugiés dans les 7 mois qui viennent. Hier, le Japon a annoncé un don financier de 9,4 millions de dollars en faveur du camp de Béra, mais aussi des zones riveraines.
Le Mali doit ratifier la convention 189 de l'Organisation internationale des travailleurs, OIT. C'est ce qu'annoncent les associations de défense des travailleurs domestiques en Afrique de l'Ouest. Selon ses responsables, cette ratification permettra aux aides ménagères d'avoir une meilleure couverture sociale. Wahab Touré du réseau malien multi-acteurs de la prévention sociale au micro de Mariam Maïga.
Vous voyez, on les appelle des bonnes, pour parler de façon un peu, je ne dirais pas vulgaire, mais comme le commun des Maliens les appelle comme ça, il s'agit des bonnes à tout faire. Alors quand on dit bonnes à tout faire, ça veut dire que déjà, il y a un dépassement et à la limite, elles sont considérées comme des êtres humains. Nous sommes en train d'attirer l'attention de l'État pour que ces demoiselles-là, ces hommes qui sont dans nos ménages, dans nos foyers, soit couvert, soit aussi considéré comme des êtres à part entière avec des droits. Les droits, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, par rapport au salaire, il faut leur donner un salaire qui puisse leur permettre de vivre et qui ont des droits au repos, droits à des congés s'il le faut. Ils sont malades, normalement, ils doivent être couverts, ils doivent se reposer.
Studio Tamani, financé par l'Union européenne et les gouvernements de la Suède et du Royaume-Uni.
Des régions, les populations de Bamba dans le cercle de Bourem ont marché hier contre le départ des forces armées de la ville. Les soldats ont été redéployés à Taoussa, toujours dans le cercle de Bourem. Suite à la manifestation, les chefs de village et fractions ont remis leur doléance au chef de poste pour qu'il les fasse parvenir au ministre de la Défense. La population craint une recrudescence de la violence dans la zone avec ce retrait des forces de sécurité. Le village de Solba dans le cercle de Yanfoila dispose désormais maire d'un château d'eau. L'ouvrage a été inauguré hier en présence des populations locales. D'un coût total de 5 millions de francs CFA, il a été financé par l'association Entre Aide Mali Yalankoro Soloba. Quelle méthode utiliser pour apprendre à lire à l'école? Environ 200 enseignants du premier cycle des communes de Ségou, Sébougou et Pélégana approfondissent leurs connaissances de la méthode syllabique. La formation à laquelle ils participent est organisée par le Centre d'animation pédagogique de la ville. Selon ses responsables, cette sensibilisation devrait contribuer à promouvoir la lecture à l'école primaire. Comme chaque vendredi, sur le forum de la presse, il est avec moi dans ce studio. Bonsoir Ousmane Touré.
Bonsoir, c'est tout.
Alors c'est ça, vous allez aborder quel sujet?
Alors on va logiquement parler des élections communales de dimanche dernier avec un petit teint de violence dans tout le pays. On va ensuite parler de la commission technique de sécurité, une réunion au cours de laquelle les signataires n'ont pas vraiment pu s'accorder. On va également parler du procès Sanogo, le procès Sanogo qui ouvre donc la semaine prochaine. Et si le temps nous le permet, on va parler d'insécurité alimentaire dans le camp de réfugiés de Mbera. Vous l'avez abordé tout à l'heure dans votre journal. Nous recevons Togola Awasemega de Kounafoni TV, Boubacar Paetao de l'Indépendant, Fakra Faïndé de Républicain et Hassan Kone de NotreNation.com.
Merci et très bon débat. On se trouve juste après pour le magazine.